Radio Star Verde.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et toute cette semaine de 18h à 20h, édition spéciale Europe, les enjeux des élections européennes du 26 mai, un thème, des reportages et les explications de nos spécialistes. Dès 18h40, c'est plutôt que d'habitude, le téléphone sonne, ce sera à vous de jouer, c'est vous qui faites l'émission. On attend vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Ce soir, notre thème, la politique agricole commune. L'agriculture est-elle soutenue ou étouffée par l'Europe ? Faut-il revoir la répartition des aides de la politique agricole commune ? Pour vous répondre, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Mathieu Courgeot, bonsoir.
Bonsoir.
Mathieu Courgeot, vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne des Pays de la Loire.
C'est ça.
Emmanuel Ruffès, de la rédaction de France Inter, spécialiste du dossier agriculture.
Bonsoir,
bonsoir Manuel.
Pierre Veille. Un jour dans le monde.
Isabelle Labéry de la rédaction internationale de France Inter est avec nous pour d'abord décrypter ce dossier de la politique agricole commune. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
On remonte au début, rien que des faits. Hein. D'abord, l'année de naissance de la PAC.
1962, c'est l'année à laquelle la PAC est entrée en vigueur. Une autre époque hein, où l'Europe comptait 6 pays seulement. Et la France, 3 millions d'agriculteurs. Ils sont moins de 450 000 aujourd'hui. Alors les objectifs de la PAC, c'était simple. Augmenter la productivité, établir des prix garantis pour certaines productions, assurer un revenu équitable aux exploitants et la sécurité alimentaire des consommateurs. Depuis, la PAC a élargi son champ d'action à l'environnement, à l'aménagement du territoire, parce que, un peu comme les voitures ou peut-être les machines agricoles, je ne sais pas, la PAC passe régulièrement en révision, tous les 7 ans, et la prochaine période, c'est donc 2021-2027.
Et combien ça coûte, Isabelle, la PAC ?
Alors, sur la période qui s'achève, le budget global est d'environ 58 milliards d'euros par an, ça c'est pour l'ensemble des pays européens, dont 9 pour la France, qui est le premier pays bénéficiaire et de loin, loin devant l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Même si ce budget ne cesse de baisser au fil des ans, la PAC reste toujours le premier poste de dépense de l'Union européenne. Autant vous dire que les négociations, les discussions sont souvent rugueuses à Bruxelles quand il s'agit de modifier les contours de cette politique commune.
Alors, Isabelle Labéry, aujourd'hui justement, comment ça marche cette politique agricole commune ?
Alors, on va simplifier, mais en gros, le budget de la PAC, c'est deux enveloppes différentes. La plus épaisse, celle qui représente les deux tiers du budget, finance les aides directes aux agriculteurs. L'argent est distribué à l'hectare en fonction de la surface des exploitations, peu importe ce qu'elles produisent. Plus une ferme est grande, plus l'agriculteur aura des subventions. Encore une fois, je schématise. L'autre enveloppe qui est nettement moins fournie est, elle, consacrée à ce qu'on appelle le développement rural. Ça veut dire moderniser les exploitations, accompagner les agriculteurs qui s'installent, aider aussi ceux qui sont dans des zones géographiquement contrariés, en montagne par exemple, où cet argent permet encore de soutenir le développement de l'agriculture biologique. Mais là, attention, ce n'est pas l'Europe seule qui paie l'addition. Il y a un cofinancement par les États membres et leurs collectivités territoriales. En France, donc, ce sont les régions. Eh bien, ça veut dire que cette enveloppe, elle est plus ou moins grosse selon les pays et la bonne volonté de chacun.
Isabelle Labéry, vous restez avec nous. On vous retrouvera dans quelques minutes sur l'importance de la politique agricole commune. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2017, les exploitations agricoles françaises ont reçu de la PAC en moyenne 33 200 euros par exploitation. Sans les aides européennes, la moitié des exploitations auraient un revenu négatif. C'est encore plus vrai chez les céréaliers. Sans les aides, 65% seraient en revenu négatif. Manuel Ruffès s'est rendu dans une exploitation céréalière. L'agriculteur lui a ouvert ses portes et aussi lui a ouvert ses livres de comptes.
Nous voici en plein cœur de la Bretagne, dans le Morbihan, mais à la limite des Côtes d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine, sur la commune de Mauron, précisément. Jean-René Meunier nous fait visiter son exploitation.
Donc là-bas, là, les petits pois, là-bas, du blé. Qu'est-ce
là,
qu'on a
dedans ? Les petits pois, là, au fond, là-bas, on a du blé. Au loin, là-bas, on voit du colza.
Le colza, bien sûr,
on voit la bien
couleur
jaune,
jaune
là-bas. Ouais. Ensuite, moi, j'ai un champ d'orge, mais qui est caché, on le voit pas d'ici. Enfin, il est en montant la côte, au loin, là-bas. C'est un vert un peu différent, un vert un peu plus clair. Après, j'ai un autre champ qui est juste derrière nous, à peu près à 300 mètres.
Derrière le bosquet d'arbres.
Derrière le bosquet, ouais. Au pied du bosquet, là-bas, où ce sont des brocolis qui viennent juste d'être plantés.
On revient un peu vers le hangar.
Et on va se remettre un peu à l'abri du vent.
Oui. Oui, ça souffle un peu aujourd'hui.
Ça s'appelle les quatre vents.
C'est chez vous, c'est le nom de votre exploitation.
C'est le nom de l'exploitation.
Dans cette exploitation, les 80 donc, Jean-René Meunier, pourtant en pleine terre d'élevage, fait de la céréale et des légumes. Ce sont ses parents qui vivent encore là, qui ont défriché ces champs de leurs propres mains à la fin des années 60.
On peut aller du coup dans votre bureau, voir un peu votre, votre livre de compte.
On va aller discuter.
Ouais.
Et donc, pour lui, pour son exploitation de 160 hectares...
Alors vous avez combien d'indemnités PAC ? C'est la feuille qui est là, c'est ça, relevé de situation ?
Relevé de situation, moi je touche 26 973,40 euros. Voilà 40. Le chiffre sur l'année. Dans beaucoup d'exploitations céréalières pures, c'est le revenu annuel.
Est-ce que vous pourriez vivre sans ?
Vivre sans, non.
Vivre sans, non. Et Jean-René Meunier préfère parler d'indemnités PAC, surtout pas de subventions. Et ce qu'il veut aussi, c'est expliquer à quel point c'est complexe et contraignant. Coup d'œil sur sa déclaration.
J'ai une parcelle qui était à 9,85 hectares en avoine.
En avoine.
Ici, j'ai toutes mes parcelles de blé, 1,49 hectare, 1,83 hectare, 3,87 hectares, 1,93 hectare. C'est très précis. Toutes les cultures sont déclarées comme ça, vis-à-vis de l'administration. À deux chiffres après la virgule, il y a un moment où ça devient quand même un petit peu pointilleux. C'est cet élément-là qui peut prêter à sourire, mais qui est très casse-pied.
Jusqu'à répertorier chacun de ces arbres, ce sont les mesures de verdissement qui conditionnent ces aides.
J'ai un autre petit document là qui va peut-être vous amuser, qui moi m'amuse beaucoup moins. C'est ce document-là, sur l'îlot numéro 1, c'est celui, le champ qui est juste à côté de nous. Ici, j'ai 5 arbres alignés, dont un autre champ, 50. Sur 50 mètres. Ouais. Ça, c'est à un bout du champ. Mais à l'autre bout du champ, il y a 10 arbres sur une longueur de 100 mètres. Ouais. Ici, j'ai une ES, oui, toujours dans le même champ, qui fait 66 mètres de long.
Et au bout du compte, ce sont ses propres calculs, bien sûr. Que lui reste-t-il de la somme versée ?
Une fois qu'on a défalqué toutes les charges qu'on doit payer ailleurs, une fois que je retire toutes les charges sociales que je vais payer, puisque c'est un chiffre d'affaires, donc je vais payer toutes mes charges sociales dessus, une fois que je vais avoir retiré toutes les pertes de surface non cultivées à cause de ça, une fois que je vais avoir retiré le fait d'acheter de la semence pour implanter mes couverts végétaux, une fois que je vais avoir retiré les surfaces de jachère obligatoires, puisque je dois laisser 6% de mes surfaces ou en équivalent sans culture, quand on cumule tout ça, oui, il doit rester à peu près 8000 euros. Un tiers de la somme que je perçois à peu près.
L'administratif, c'est une demi-journée de travail par semaine au moins, dit Jean-René Meunier, et à la moindre anomalie, c'est évidemment retenu sur ces aides de la PAC.
Reportage de Manuel Ruffez dans une exploitation agricole du Morbihan. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, un commentaire après ce témoignage. Cet agriculteur se plaint notamment de la paperasserie.
C'est vrai que la PAC a évolué beaucoup aussi en complexité. Le fait qu'il y ait aujourd'hui, comme ça a été rappelé à l'origine, des obligations environnementales en termes de biodiversité, de jachère, fait que tout doit être fait au millimètre près. Le nombre d'arbres, les mètres linéaires de haies, la largeur des haies, ce qui donne parfois lieu à interprétation. Et cette complexité, elle est difficile à vivre par les agriculteurs parce que parfois le climat ne nous aide pas et fait aussi que telle culture ne pousse pas, alors que pour l'administration, elle doit pousser. Ou quand il n'y a pas d'eau, l'été dernier, par exemple, c'était la sécheresse totale, mais nous avions une date obligatoire à respecter pour semer nos cultures intermédiaires. Ça, c'est très difficile de marier une activité qui est très liée au climat et des dates impératives et administratives.
Mathieu Courgeot, porte-parole de la Confédération paysanne des Pays de la Loire. Une réaction après avoir entendu ces propos, on se rend compte que la PAC est absolument indispensable. Sans l'argent versé par la PAC, ça marche pas.
Oui, tout
c'est
à
la
fait.
Ruine.
Oui, bah vous l'avez dit en introduction, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a presque la moitié du revenu des paysans qui est assuré par des aides. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même rendu très complexe par effectivement la PAC et la paperasse qu'il y a avec. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué. Mais c'est un choix politique qui a été fait dans les années 90 de s'aligner sur les cours mondiaux et de compenser cette baisse de prix par des subventions. Et c'est ce mécanisme-là qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui.
On aura l'occasion d'y revenir. La politique agricole commune, gros plan avec Isabelle Labéry. Isabelle, cette PAC, on l'a entendu, elle obtient globalement le satisfecit des agriculteurs. Mais il faut le dire, sur la prochaine période, ça va sans doute changer.
Oui, déjà parce que le budget global va baisser de 5%. Donc évidemment, ça a soulevé un concert de protestations en France, mais aussi en Allemagne ou en Espagne. Pourquoi ça va baisser ? D'abord parce qu'avec le Brexit, eh bien, l'Europe va devoir se passer de la contribution britannique critique au budget. Ensuite, parce qu'elle veut l'Europe réorienter ses moyens vers de nouvelles priorités, la défense notamment, la sécurité ou les nouvelles technologies. Donc ce que dit Bruxelles, en gros, c'est qu'il faudra faire mieux avec moins, cibler les aides, simplifier les procédures. On l'a dit, la PAC est extrêmement complexe. D'ailleurs, il y a une volonté de numérisation des documents. On verra si ça réussit vraiment à se mettre en place. Mais surtout, ce qui devrait se passer avec cette modernisation de la PAC, c'est un changement de gouvernance, puisque la réforme prévoit de donner plus d'autonomie aux États membres. Ce qui fait dire à certains d'ailleurs qu'il y a un risque de renationalisation de la PAC qui pourrait se disloquer en 27 ou 28 politiques agricoles nationales différentes. Les États pourraient en effet devenir seuls responsables de l'attribution des fonds, à condition évidemment de respecter les objectifs qui seront fixés par la Commission européenne, notamment en matière de sécurité alimentaire ou de revenus des agriculteurs. Donc on passera à une espèce de culture du résultat. D'ailleurs, s'ils atteignent leurs objectifs en matière d'environnement ou de biodiversité, on en parlait, eh bien les États pourraient même avoir droit à des bonus, à des crédits supplémentaires.
Oui, car l'objectif de cette nouvelle PAC, c'est aussi de faire plus vert.
Oui, les États pourront plus facilement utiliser les fonds pour financer des actions en faveur de l'environnement ou de la lutte contre le réchauffement climatique. Et les agriculteurs, eux, eh bien, ils devront, pour recevoir leurs aides directes, se conformer à des exigences environnementales plus rigoureuses. En tout cas, c'est ce que souhaite la Commission. Il pourrait, par exemple, y avoir des obligations en matière de qualité de l'eau ou de réduction de l'utilisation des pesticides. Alors, il faut bien se dire quand même que les toutes premières pistes de cette réforme ont été évoquées il y a un an et demi, en novembre 2017. Elles ont depuis été largement amendées et elles peuvent encore l'être. On le verra selon le visage du nouveau Parlement et de la nouvelle Commission qui sortiront des urnes en mai prochain.
Isabelle Labéry, vous le disiez, Isabelle, les règles de la PAC vont être revues. Alors qu'en dit-on en Europe? Deux exemples, l'Écosse dans les Borders et en Pologne. Marie-Pierre Véraud s'est rendue sur place et un constat, partout on reconnaît le caractère vital de ces aides. La Pologne aura reçu entre 2004 et 2020 60 milliards d'euros au titre de la PAC. Avec Marie-Pierre Véraud, nous sommes d'abord dans une exploitation de vaches laitières au sud de Varsovie. Ensuite, on ira en Écosse.
L'exploitation est une exploitation de 120 hectares. Nous avons un cheptel de 80 vaches, dont 35 sont des vaches laitières.
Mateusz travaille avec son père dans cette exploitation du canton de Chindłowiec, au sud de Varsovie. Sans l'Europe, il n'aurait pu se développer ni envisager d'agrandir son étable. Mais il regrette que les aides ne soient plus versées en une seule fois au début de l'année, mais en deux ou trois, ce qui l'oblige désormais à s'endetter en attendant le complément. Et puis, ajoute-t-il, les subventions, c'est parfois beaucoup de complications.
Le frein à un réel développement, c'est quand même aussi cette bureaucratie un petit peu imbécile, parce que il fixe des règlements qui sont quelquefois très éloignés des besoins réels des agriculteurs. On s'était acheté cette machine qui a 4 socs. Vous pourriez avoir une aide, mais vous pourriez avoir une charrue équipée de 3 socs. Et comme la vôtre est équipée de 4 socs, vous n'avez pas droit à l'aide.
Sans oublier cette injustice que ressentent les agriculteurs polonais.
Nous voudrions, comme paysans polonais, que les aides soient les mêmes, par exemple, en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, parce que, bien sûr, notre main-d'œuvre est moins chère ici, etc. Mais s'il s'agit de payer les carburants ou de payer, par exemple, les frais d'exploitation, les machines agricoles, etc., on les paye le même prix que les paysans français ou allemands. On est le voisin de l'Allemagne et on sait très bien ce qui se passe là-bas. Pour un hectare, la dotation annuelle est de 400 zlotys plus élevée en Allemagne qu'ici. 400 zlotys, c'est 100 euros. Il y a 100 euros de différence par hectare entre une exploitation allemande et une exploitation polonaise.
À l'autre bout du continent, dans les Borders, en Écosse, à la frontière avec l'Angleterre, paradis des moutons, au-delà de la pérennité de la PAC, c'est l'incertitude liée au Brexit qui inquiète le monde agricole. Le gouvernement britannique se substituera-t-il à l'Union? Car ces aides, reconnaît Gavin, rencontrées au marché aux bestiaux de Bozos, elles sont indispensables.
Les subventions européennes, nous en avons vraiment besoin pour continuer à produire. Nous en dépendons tous, plus ou moins. Mais dans le fond, elles sont aussi une aide pour l'économie, car nous investissons pour l'avenir.
Robert Nail, qui élève des bœufs écossais très prisés des grandes tables de la région, va plus loin encore. Ce n'est pas l'Europe qui nous aide, c'est nous qui aidons l'Europe.
I'll turn it around. I'm not subsidized.
Moi, je vais vous dire les choses autrement. Je ne suis pas subventionné. Je ne reçois pas de subvention. Je reçois de l'argent, c'est vrai, mais pour moi, c'est de l'argent pour assurer notre sécurité alimentaire à tous. Nous, les paysans, nous ne sommes pas doués pour expliquer ça aux gens. Cet argent de l'Europe, c'est pour que tout le monde puisse manger. Donc moi, je dis que nous ne sommes pas subventionnés. Nous vendons de la nourriture à un prix inférieur au coût de production, et tant que les consommateurs ne voudront pas payer le juste prix, il faudra bien que quelqu'un compense et complète nos revenus, sinon le pays va mourir de faim.
Sans oublier, ajoute-t-il, le rôle de gardien de la biodiversité que jouent les éleveurs des Borders, et ça aussi, cela se récompense.
Reportage, Marie-Pierre Véraud en Pologne, en Écosse. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, vous avez entendu cet agriculteur, cet éleveur en Écosse. Il dit non, je ne reçois pas de subvention, moi, je défends la bonne alimentation.
Mais ce qu'il faut dire quand même à l'origine, c'est qu'il y a un budget européen pour la politique agricole commune. Et du coup, les États membres font le choix de ne pas avoir budget pour l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture a un des budgets les plus faibles parce que nous avons, nous, un budget qui est à l'échelle européenne. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est vrai que ces aides aux agriculteurs sont autant de tickets de réduction pour chacun d'entre vous, pour vous nourrir de façon accessible. C'était l'un des objectifs de la politique agricole commune. Rendre l'aliment alimentation saine et accessible à tous les consommateurs. Donc en fait, les vaches, les hectares sont des passages pour que l'alimentation soit accessible. C'est plutôt le cas puisque la dépense alimentaire des Français n'a cessé de baisser depuis 20 ans.
Mathieu Courgeot.
Il faut bien expliquer ce mécanisme-là. Et en plus, il a tout à fait raison. Depuis qu'elle a beaucoup verdi, on fait en plus de la biodiversité, de l'environnement, de la réhabilitation même de certains espaces.
On aura l'occasion d'en parler au cours du téléphone sonne. Mathieu Courgeot, porte-parole de la Confédération paysanne. Dans ces témoignages, on parlait beaucoup des aides trop différentes de pays en pays.
Alors effectivement, c'est le cas. Aujourd'hui, on a des aides, des montants à l'hectare qui sont extrêmement différents entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, parce que l'Europe de l'Est est arrivée plus tard dans l'Union européenne. Aujourd'hui, ils sont en train de converger. Donc nous, ce qu'on demande à la Confédération paysanne, c'est d'avoir une convergence qui aille plus loin, c'est-à-dire que le montant à l'hectare se rapproche, parce que l'idée derrière ça, c'est d'avoir une harmonisation des aides à l'hectare et aussi des agricultures européennes, des budgets européens. Voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on participe à la construction européenne via la PAC.
Mathieu Courgeot, Christiane Lambert, Emmanuel Ruffez, on se retrouve dans quelques minutes dans le Téléphone Sonne.
Le 18-20, Pierre Veil sur France Inter.
Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Comme tous les soirs, pendant cette semaine spéciale élection européenne, vous nous racontez comment l'Europe est vue de l'extérieur, ailleurs, dans le monde. Alors sur notre thème aujourd'hui, l'agriculture, on va avec vous en Amérique du Sud, où l'Union européenne est regardée comme déloyale.
Oui, le Brésil et l'Argentine notamment emploient des mots forts. L'Europe abuse de sa position dominante. Ça peut choquer certains agriculteurs ici qui peuvent voir dans la PAC une protection insuffisante. Mais vu d'Amérique latine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour eux, la PAC, c'est un mécanisme déloyal qui entrave la concurrence et qui protège beaucoup trop l'agriculture européenne. Pour comprendre, il faut d'abord quand même rappeler la puissance de l'Europe qui est énorme. Première puissance agricole mondiale, premier exportateur mondial, 130 milliards d'euros par an, notamment les boissons, les vins, les alcools. L'Union européenne, vue de l'extérieur, c'est donc d'abord un poids lourd du secteur. Et la politique agricole commune, c'est l'outil abusif de la domination européenne, c'est-à-dire des subventions massives visant à casser les prix à l'exportation pour être compétitif sur les marchés mondiaux, donc injuste. Et la critique va même plus loin. L'Europe est soupçonnée d'imposer des normes sanitaires excessives sur la viande porcine, par exemple, et de dissimuler ses aides aux agriculteurs via les fonds pour la promotion du développement rural, qui sont des fonds tolérés par l'Organisation mondiale du commerce. Si j'ai choisi ce soir le point de vue du Brésil et de l'Argentine, c'est parce que pour eux, l'enjeu est majeur. L'agriculture, l'agroalimentaire sont des piliers de leurs économies. Les productions de sucre, sucre, de café, de viande bovine, de soja, de vin sont centrales pour ces deux pays. Donc ils estiment qu'ils exporteraient beaucoup plus si l'Europe respectait les règles de la libre concurrence.
Mais Jean-Marc, il y a quand même des négociations commerciales assez avancées avec ces pays.
Oui, ce sont des discussions entre l'Union européenne et ce qu'on appelle le Mercosur, qui regroupe les principales économies d'Amérique du Sud. Ça a démarré en fait il y a une vingtaine d'années, ça a longtemps stagné, ça a redémarré il y a 3 ans. La dernière séance de négo a eu lieu il y a un mois à Buenos Aires. Les choses évoluent d'ailleurs, les exportations agricoles ou agroalimentaires brésiliennes vers l'Europe sont en hausse régulière. Mais pour les Sud-Américains, là encore, l'Europe n'est pas fair-play. Je vais prendre un exemple de leur point de vue toujours. D'un côté, à l'exportation, Bruxelles veut pouvoir distribuer sans limite le vin européen, sauf que c'est une menace pour de nombreux exploitants brésiliens ou argentins. À l'inverse, à l'importation, Bruxelles veut imposer des quotas, des restrictions à la viande bovine en provenance d'Amérique latine. Donc toujours ce sentiment d'un deux poids, deux mesures, ce soupçon d'une Europe qui abuserait de sa position dominante.
Et en même temps, il y a de vraies interrogations sur la qualité sanitaire des produits sud-américains.
Ça, c'est certain. On se souvient de ce scandale de la viande avariée au Brésil il y a moins de 2 ans. Et les géants sud-américains ont, c'est vrai, développé une agriculture à marche forcée avec engrais, produits chimiques à la clé. Mais là encore, en fait, quand on leur parle, ils nous renvoient la balle. C'est-à-dire qu'ils soulignent que l'Europe a fait exactement la même chose pendant 50 ans. Donc ils disent, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et l'un de mes interlocuteurs brésiliens m'a glissé cette idée. Laissez-nous donc faire le gros œuvre de la production massive. On est plus fort, on est plus compétitif que vous. Redéployez vos aides européennes exclusivement vers des circuits agricoles courts. Une agriculture haut de gamme, ça sera plus logique.
Jean-Marc Four, l'Europe vue de l'extérieur. À demain soir, Jean-Marc. Dans quelques minutes, le téléphone sonne. Le standard est à votre disposition. La politique agricole commune, toutes les questions que vous vous posez. 01 45 24 7000. Vos courriels sur le site franceinter.fr. Tout de suite, une des grandes voix de la musique soul anglaise, la musique de l'âme, c'est Georgia Smith sur son premier album Lost and Found. Il y a The One. Never had to work for love. Don't need you to show me how. Don't wanna be falling in when I'm falling out. Didn't think I'd give for love. Every time I hold it back, nothing's lost in my head. I'm trying to find who I am. There's choosers, there's takers, there's begging, heartbreakers. I don't wanna be that way. I don't wanna feel this way when I meet someone. Quelle présence! Elle est toute jeune, hein? Georgia Smith, c'était The One.
France Inter, le 18-20.
plutôt que d'habitude. Ce sera le cas cette semaine spéciale avant l'élection européenne. Le téléphone sonne ce soir, la politique agricole commune. L'agriculture est-elle soutenue ou étouffée par l'Europe? Faut-il revoir la répartition des aides dans la politique agricole commune? Voilà nos thèmes ce soir. La politique agricole commune, je le rappelle, absorbe à elle seule près de 40% du budget total de l'Union européenne, 58 milliards d'euros par an. Les agriculteurs français reçoivent plus de 9 milliards d'euros par an. La PAC a pour objectif de garantir les revenus des paysans et de favoriser le développement rural. Vous voulez en savoir plus sur ce vaste sujet? Appelez-nous 01 45 24 7000, le site de l'émission franceinter.fr. Nos invités, vous avez déjà pu les entendre depuis le début de cette émission, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Mathieu Courgeot, qui est le porte-parole de la Confédération paysanne des Pays de la Loire, et Manuel Ruffès de la rédaction de France Inter, spécialiste du dossier agriculture.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Je vais tout de suite vous lire un courriel un peu polémique. C'est Jean qui nous écrit ceci, il est à Paris. Ne trouvez-vous pas choquant que la PAC représente 37% du budget de l'Union européenne alors qu'elle ne bénéficie qu'à 5% de sa population? Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Voilà, j'oublie ce courriel. Christiane Lambert.
D'abord, redire que les pays européens ont fait le choix d'avoir une politique intégrée, c'est-à-dire un budget européen pour leur agriculture et pas de budget national. Donc, il y a une compensation en quelque sorte. Mais pourquoi ce pourcentage de 37%? Parce qu'il y a très peu de politiques intégrées. Et au départ, il y avait la politique du charbon et la politique agricole. C'était 80% consacré au budget de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 37%. Mais ça ne représente que 1% de l'ensemble des dépenses publiques des États membres. Donc, il faut le relativiser. Un chiffre dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, c'est 5% de la population, comme dit cette personne. Ils produisent l'alimentation pour 100% des Européens. Donc, ils ont beaucoup de mérite, ces 5%. Parce qu'ils font face à la pluie, au beau temps, à la complexité administrative, pour garantir une alimentation saine, sécurisée, diversifiée. C'est du mérite.
Mathieu Courgeot, pour la Confédération paysanne.
Oui, alors aujourd'hui, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que la PAC, elle représente environ 110 euros par an et par Européen. Ça, c'est un chiffre important, parce que ça veut dire qu'aussi, que les citoyens ont droit à avoir une voix au chapitre sur la définition de ce qu'ils veulent comme politique agricole commune. Parce qu'effectivement, c'est l'alimentation, c'est les paysages, c'est les territoires, et c'est la dynamique qu'on peut avoir dans les campagnes. Donc tout ça, c'est des chiffres importants pour se dire que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut comme projet pour la PAC? Aujourd'hui, c'est vrai que la PAC, c'est une politique fondatrice de l'Union européenne, c'est très important de savoir ça, c'est la seule qui est complètement intégrée. Elle fonctionne très mal aujourd'hui, on a des agriculteurs qui vivent mal, on a un environnement qui s'est dégradé. Donc voilà, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour changer cette politique agricole commune? Et ça, c'est urgent.
On va aller au standard dans quelques secondes. Ce courriel encore, moi je vous le soumets, Manuel Ruffès. C'est Jeanne qui nous dit « Y a-t-il des agriculteurs qui veulent sortir de l'Europe ?» Je ne crois pas, dit-elle. Il y a une unanimité, non?
Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une unanimité, simplement parce que si les agriculteurs étaient soumis au cours des produits mondiaux, ils n'arriveraient pas à en vivre. On voit très bien, on a donné les chiffres. 50% des exploitations seraient en revenu négatif s'il n'y avait pas les aides. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas d'actualité. On ne peut pas vivre de ce métier juste en s'alignant sur les cours mondiaux des produits.
Je crois qu'il faut être très direct. L'Europe a besoin de son agriculture, parce que l'alimentation, c'est un besoin capital et c'est la stabilité. Mais l'agriculture a besoin de l'Europe. Nos sorts sont liés. Donc, on se plaint des complexités administratives, mais l'Europe a besoin de son agriculture. La sécurité alimentaire, c'est jamais garanti à 100%.
Mathieu Courgeot, rapidement, après on va aller au standard.
Effectivement, je crois qu'aujourd'hui on a besoin de l'agriculture, on a besoin de l'alimentation, on a besoin de manger 3 fois par jour, et ça a un prix quand même. Et donc c'est comment est-ce que la politique aujourd'hui fait pour qu'on ait une alimentation saine, de qualité dans nos assiettes 3 fois par jour?
On a besoin
pour ça,
on a besoin de
l'Europe, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui on est sur un marché unique. Les 28 pays, bientôt 27 pays européens, on est sur un marché unique. Aujourd'hui, le gros besoin qu'il y a, c'est d'aller vers une harmonisation sociale, fiscale, environnementale. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est là, l'urgence à construire dans le projet européen.
Vous dites harmonisation fiscale et sociale, par exemple. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine?
Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'Europe, c'est une zone de libre-échange. Donc, on a un phénomène de dumping, par exemple, sur les fruits et légumes. On constate que, en Espagne, l'Espagne embauche des travailleurs migrants saisonniers, et ce qui fait baisser fortement leur coût de production, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on n'est plus en France, on ne produit plus que 50% de nos fruits et légumes. Et ça, quand on sait l'importance qu'il y a pour la santé, pour les fruits et légumes, on se dit, mais c'est quand même pas normal, il va falloir faire quelque chose. Même chose, par exemple, on a eu le cas aux Pays-Bas du fraudolisier. Donc les producteurs de lait des Pays-Bas ont organisé une fraude massive sur le lisier, ont pu de fait augmenter leur capacité de production en lait, ce qui a fait baisser le cours des prix pour tous les producteurs laitiers européens. Et donc ça, on se dit... Il faut aujourd'hui que l'Europe mette en place des normes, les fasse respecter surtout, pour que tout le monde puisse jouer dans la même cour, quelque part.
Christiane Lambert.
Oui, on pourrait illustrer d'autres exemples. La France décide de supprimer certains produits phytosanitaires en France. Les autres pays les utilisent. Mais on importe leurs produits, leurs fruits, leurs légumes qui ont été traités avec ces produits. Vous savez, moi j'ai une devise. À marché unique, règle unique. Nous avons un marché unique. Tout circule librement. Plus de frontières. C'est bien. Eh bien, il faut que les règles soient harmonisées dans les différents pays. Ça, c'est pour nous une priorité aussi.
En Ille-et-Vilaine, Charlotte écoute France Inter, il téléphone sonne et souhaite intervenir. Charlotte, bienvenue.
Bonsoir.
C'est
merci
à vous.
De prendre mon appel. Moi, je voulais intervenir sur justement le rôle de la PAC. Pour moi, c'est aussi d'assurer normalement la souveraineté alimentaire de chaque pays et d'offrir aux citoyens une alimentation de qualité. Pour tous. Et à ce titre-là, en fait, par rapport à la répartition de la PAC, en fait, entre les agriculteurs. Aujourd'hui, il y a des maraîchers, par exemple, que je prends en exemple, qui sont oubliés complètement de la PAC. C'est des gens qui assurent de l'alimentation de qualité autour de chez eux sur les territoires, qui créent de l'emploi. Et je connais des maraîchers qui travaillent seulement un demi-hectare avec 5 emplois et qui touchent zéro PAC. Alors que ces gens-là sont aussi confrontés aux aléas climatiques, aux pertes, comme tout le monde. Et c'est aussi des paysans, comme tous les autres paysans. Pourquoi ? Donc c'est vraiment de savoir quelle est la position de chacun sur la future répartition. Est-ce qu'on va arrêter de faire des aides à l'hectare et plutôt des aides vraiment redistribuées aux paysans équitablement?
On va vous répondre, Charlotte. Mathieu Courgeot.
Ouais. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que la PAC, elle a été faite par et pour l'agro-business. Je crois que ce constat, il est quand même assez partagé. Aujourd'hui, les paysans, ils ont quand même été réduits à faire de la production pas chère pour approvisionner le système industriel. Mais c'est ça qui doit cesser, c'est ça qu'on a changé. Aujourd'hui,
qu'est-ce que ça veut dire l'agro-business?
L'agro-business, c'est l'agroalimentaire, c'est les Lactalis, c'est les Bigard, ces grandes entreprises qui aujourd'hui quand même asservissent les paysans et se gavent sur le dos des paysans et sur le dos des consommateurs. Aujourd'hui, c'est ça qu'on peut voir. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre, c'est comme le disait notre auditrice Charlotte, c'est remettre les paysans au centre de la politique agricole avec des fonctions qui font la noblesse de notre métier. Je crois qu'effectivement, nourrir, voilà, aujourd'hui, nous paysans, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on veut faire, c'est nourrir sainement, c'est protéger l'environnement, c'est protéger nos territoires. Et donc, le mécanisme d'aide qu'on a aujourd'hui en Europe, il y a à peu près 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. Aujourd'hui, ça, c'est intenable. Il faut se dire... Aujourd'hui, comment est-ce qu'on répartit en fonction d'autres critères que la surface? C'est quand même ça qui est central. L'Europe a financé un plan social massif européen. Aujourd'hui, on a perdu énormément d'actifs agricoles et ça, c'est pas normal. Il faut se dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on a une politique qui encourage l'emploi? Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, l'aide de la politique agricole commune dépend du nombre d'hectares.
Le calcul tel qu'il existe aujourd'hui fait que les aides sont octroyées à l'hectare. Par contre, le chiffre a évolué. C'est-à-dire qu'autant en Europe, c'est 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. Parce que, par exemple, dans les pays d'Europe centrale et orientale, quand ils nous ont rejoints, c'était des très grandes fermes de milliers d'hectares et qui concentrent beaucoup de soutien. En France, ce chiffre est différent. En France, 20% des agriculteurs touche 50% des aides. Donc on a un ratio, nous, qui est beaucoup plus équilibré. Parce qu'on a des exploitations familiales de taille moyenne. On n'a pas du tout les mêmes fermes que dans les pays d'Europe centrale et orientale, ni au Brésil comme tout à l'heure. Donc on a un ratio aide-agriculteur qui est plus équilibré qu'ailleurs. Et puis, en maraîchage, il n'y a pas d'aide, sauf pour certaines productions qui sont organisées. J'entends ce que dit cette personne-là, mais il y a d'autres productions qui n'ont pas d'aide. Le porc, ma production, n'est pas non plus une production soutenue.
Jean-Louis nous écrit indiquez sur le site de l'émission. Ce sont de grandes exploitations agricoles, les plus industrielles, les polluantes, productivistes, intensives, dépendantes.
Attendez,
laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Productivistes, intensives, dépendantes de l'industrie chimique qui touche l'argent de la PAC, c'est anormal.
Mais il y a eu d'abord une exploitation peut être grande, intensive et pas polluante. Il faudrait que ce monsieur révise ses plaquettes. Bon. Elles sont toutes contrôlées aujourd'hui, les exploitations, et croyez-moi, les contrôles, il y en a beaucoup. Elles utilisent aujourd'hui des engrais de façon raisonnable, etc., etc. Donc, tous ces grands mots, ça, c'est des grands laïus idéologiques, hein, on connaît ça par cœur. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'en France, aujourd'hui, les jeunes sont aidés pour l'installation. Les agriculteurs en zone de montagne sont aidés en zone de montagne. Les estives aujourd'hui sont aidées. Il y a eu un rééquilibrage des aides vers les systèmes herbagers. Plus d'un milliard quatre qui ont basculé des grandes cultures et de l'élevage d'ailleurs de nos régions vers l'herbe. Donc il y a eu du rééquilibrage dans la distribution des soutiens.
Manuel Ruffez.
Oui, effectivement, on appelle ça des aides découplées. Hein. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'effectivement, quelle que soit la production, on touche des aides à l'hectare. Alors effectivement, ça a deux facettes qui ne sont pas forcément bonnes. C'est que ça incite à avoir le plus d'hectares possible, donc à l'agrandissement des exploitations. Et puis, surtout, que les années soient bonnes ou que les années soient pas bonnes, eh bien les aides sont les mêmes. C'est-à-dire que qu'on soit en période de vaches maigres ou de vaches grasses, eh ben, les aides sont les mêmes. Et ça, peut-être qu'il y aura un dispositif à revoir là-dessus aussi.
Alors, cette aide de la PAC dépend du nombre d'hectares. Et là, on nous demande, hein, je résume plusieurs courriels qu'on a reçus, est-ce que ça veut dire que ça entraîne une spéculation sur le foncier ? Mathieu Courgeot.
Oui, c'est un peu lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le foncier, il y a dans certaines régions où on revend des subventions, on revend des droits à prime. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Et bah, effectivement, ça renchérit le foncier. Alors, le foncier, c'est notre outil de production. C'est-à-dire que nous, bah, pour être paysan demain, on a besoin de foncier. On a besoin, en fonction des productions, 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, 100 hectares. Et donc, l'accès au foncier, c'est quelque chose de primordial. Nous, ce qu'on demande à la Confédération paysanne, c'est une grande loi foncière. Le ministre Didier Guillaume l'a annoncé à notre congrès la semaine dernière qu'il allait en avoir une au printemps, là sans doute. On avait commencé à travailler là-dessus. Et ça, c'est primordial parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on répartit le foncier aujourd'hui entre les agriculteurs. On a un défi générationnel qui est devant nous. Il y a 50% des paysans qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans en France. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à remplacer ces paysans-là, voire en installer plus. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait.
Emmanuel, en Maine-et-Loire. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne en direct. On est content de vous entendre et on va écouter votre remarque ou votre question.
Tout d'abord, je voudrais remercier la qualité des intervenants ce soir. Alors, l'intervention que je fais, c'est je suis enseignant en politique agricole. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que les prix agricoles, sur la longue durée, ils ont tendance à baisser. En 1945, le prix du blé était autour de $600. Maintenant, il est autour de $200. Et cette tendance, elle a été compensée par la PAC à partir de 62. Oui. Et les principaux bénéficiaires, c'était la France. Et dans les années 70, la France percevait plus de 40% des aides. Et sans la PAC, jamais l'agriculture française ne serait modernisée à ce point-là. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que pour beaucoup d'agriculteurs pensent que la PAC a été créée dans les années 90 alors qu'ils bénéficient de la PAC depuis les années 90. Maintenant, la question c'est est-ce que la PAC d'aujourd'hui est toujours adaptée aux enjeux d'aujourd'hui? Les aides, elles étaient indispensables. Sans les aides, on paierait plus cher l'alimentation. Maintenant, la question, et là c'est une question politique, c'est sur quel choix on va s'orienter? Est-ce qu'on s'oriente sur une agriculture qui est plus en phase avec la société, par exemple en matière environnementale, en matière de santé? Est-ce qu'on soutient, comme c'était fait, les petites exploitations avec la surprime aux 52 premiers hectares? Est-ce qu'on maintient ça? Et là, c'est un enjeu important. C'est un enjeu important pour l'avenir.
On va vous répondre, Emmanuel, sur ce constat que fait Emmanuel. Christiane Lambert.
Déjà, très pertinent de dire que les prix ont baissé, donc les soutiens viennent compenser des baisses de prix. Ça, c'est très important à rappeler. La PAC a déjà évolué pour intégrer les problématiques environnementales ou de déprise des territoires. Aujourd'hui, une partie des aides est conditionnée au fait de respecter 21 directives européennes concernant l'environnement. 21 directives et règlements, ce qui fait sa complexité. Mais on répond aujourd'hui aux enjeux de territoire, de ruralité, de qualité de l'eau, de lutte contre l'érosion, de maintien des oiseaux. Et dans le projet de PAC 2020, il est prévu des dispositifs pour lutter contre le changement climatique. L'agriculture a la capacité à répondre et à lutter contre le réchauffement.
Quel genre, par exemple, de dispositifs?
Par exemple, la capture carbone, le fait de maintenir des prairies qui sont de formidables réservoirs de carbone, mais aussi des réservoirs de biodiversité. Les agriculteurs doivent garder leurs prairies. D'ailleurs, qu'elles soient rentables ou pas, ils doivent les garder. Ça, c'est bénéfique pour l'environnement. On voit aussi qu'à terme, il est prévu de soutenir un plan protéines, c'est-à-dire soutenir plus les agriculteurs qui vont faire des protéines. L'Europe est dépendante des protéines américaines, nord-américaines, sud-américaines. Nous voulons conquérir notre autonomie. Donc cet objectif autonomie protéique, lutte contre le changement climatique, maintien de la biodiversité, oui. C'est inscrit dans la nouvelle PAC. Il y a un dispositif nouveau qui s'appelle l'éco-scheme, l'éco-programme, pour justement soutenir plus des agriculteurs qui feront des actions bénéfiques pour l'environnement. Donc ça va dans le sens souhaité par la société. Vous savez, la PAC, elle est aussi faite pour répondre aux attentes de la société et de l'environnement. Pas que pour répondre aux agriculteurs, mais il faut que les agriculteurs puissent en vivre quand même.
Mathieu Courgeot pour la Confédération Paysanne.
Alors il y a plein de questions dans ce que disait notre auditeur du Maine-et-Loire. Ouais. D'abord sur les prix agricoles. Effectivement, sur les prix agricoles, ils ont baissé tendanciellement. Et puis en Europe, c'est ce que je disais en introduction, dans les années 90, on a choisi de s'aligner sur les cours mondiaux sous pression de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce, pour jouer dans la cour des grands à l'international et puis qu'on paierait le même prix du blé. Sauf que les coûts de production en Europe sont beaucoup plus élevés. On n'a pas les mêmes coûts de production qu'un producteur de lait néo-zélandais, on n'a pas les mêmes productions qu'un producteur de viande en Argentine. Et en compensation, du coup, il y a eu des subventions. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que c'est pas tenable. Pourquoi cette mise en concurrence à l'échelle internationale de toutes les agricultures du monde, elle est délétère. Elle profite qu'à très peu de gens, qu'aux multinationales globalement, et elle creuse aussi la faim dans le monde. Aujourd'hui, il y a encore 800 millions de gens qui souffrent d'insécurité alimentaire, et donc ça, c'est quelque chose qu'on se dit, mais encore en 2020, comment est-ce que c'est possible de continuer là-dessus?
On a des questions, des courriels à propos du verdissement de la future politique agricole commune. Est-ce que ce verdissement, là c'est Jean-Michel qui écrit cela, ce verdissement de la future PAC va-t-il entraîner en raison de son coût, une augmentation du prix des matières premières agricoles et donc une augmentation des prix des produits agricoles? Les consommateurs vont-ils suivre?
Eh oui, Madame mais là, Lambert. C'est tout le dilemme du citoyen qui veut une agriculture belle, bonne, raisonnée, bio, etc. Mais le consommateur qui pousse son caddie voudrait que ce soit pas cher. Il y a un dilemme.
Pas possible,
nous,
ça.
Notre devise, c'est plus vert, c'est plus cher. Si on veut plus bio, plus vert, plus ci, plus ça, il faut que l'agriculteur ait un prix meilleur. Parce que c'est plus de temps, plus d'observation, parfois plus d'investissement. Et vous savez, la PAC a plus répondu sur l'objectif meilleure réponse aux enjeux environnementaux et territoriaux qu'à l'objectif meilleur revenu pour les agriculteurs. Parce que sur les revenus, il y a encore pas mal de secteurs qui sont en panne. Et c'est difficile d'être plus vert quand on est dans le rouge.
Mathieu Courgeot pour la Confédération Paysanne, plus sévère et plus sécher.
Moi, je suis pas à l'aise avec cette formule, plus sévère, plus sécher, peut-être. Mais enfin bon, moins sévère, plus c'est éphémère, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'arrive pas à répondre aux objectifs de transition agricole, eh bien c'est quand même un sacré problème. Aujourd'hui, bon, quelques chiffres, le nombre d'oiseaux des champs a diminué de moitié depuis 40 ans. Il y a 75% des insectes qui ont disparu en 30 ans. Donc oui, l'agriculture, elle a une responsabilité, c'est pas la seule, mais elle a une responsabilité, faut pas se cacher derrière nos petits doigts. Il faut pas non plus pointer la responsabilité individuelle des paysans. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les politiques agricoles qui ont mené à ce résultat-là. Et puis, aujourd'hui, on est à la veille d'une réforme de la politique agricole européenne. Je crois qu'il va falloir mettre le paquet sur la transition de l'agriculture. Il y a beaucoup de paysans qui sont prêts à faire évoluer leur système, à condition d'être accompagnés. Comment est-ce qu'on relocalise? Comment est-ce qu'on développe l'agriculture bio? Comment est-ce qu'on accroît la part de l'herbe dans les élevages? Comment est-ce qu'on produit les protéines? Et voilà, nous, notre demande, c'est que chaque paysan il soit accompagné dans son projet d'exploitation et que le financement de la PAC soit conditionné aux efforts qu'il puisse faire.
On va en parler après le journal de 19h. C'est la fin de la première partie du Téléphone Sonne qui commence plus tôt que d'habitude. On a commencé à 18h40 et on se retrouve à 19h20.
France Inter, le 18-20.
Et voici le téléphone sonne, deuxième partie, cette semaine émission spéciale Europe. Nous avons pris vos appels dès 18h40, hein, on change nos habitudes. Notre thème, la politique agricole commune, son fonctionnement, son importance dans la vie des agriculteurs, sa modification en préparation pour la période 2021-2027. Si vous êtes agriculteur, agricultrice, appelez-nous. Témoignez, dites-nous ce que vous attendez de l'Europe. Et pour vous répondre, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Mathieu Courgeot, qui est le porte-parole de la Confédération paysanne des Pays de la Loire, Emmanuel Ruffès, de la rédaction de France Inter, spécialiste du dossier agriculture.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Des courriels, je vous soumets celui-ci, on l'a reçu juste avant 19h. Quid des investisseurs chinois qui viennent acheter des terres, exemple, dans l'Indre et les vignobles? Est-ce qu'ils respectent, ces investisseurs chinois, les règles environnementales? Ont-ils droit à la politique agricole commune? Sur ce point, qui veut répondre?
Je veux bien répondre.
Christiane Lambert.
C'est tout à fait l'illustration que la sécurité alimentaire, c'est capital. La Chine, c'est 7% du territoire mondial, 22% de la population. Donc la Chine a un problème pour nourrir sa population. Que font-ils? Ils vont vers des grands pays agricoles, la France, attirés par la baguette à la française, la gastronomie à la française, et ils achètent des terres. Et ils ont acheté 1700 hectares dans Indre-et-Loire, 900 hectares dans l'Allier, ce qui a fait réagir tout le monde, ce qui a poussé aussi à demander une loi foncière et à ce que M. Macron dise il faut protéger le patrimoine foncier français. Alors, respectent-ils l'environnement? Normalement, oui, parce qu'ils sont contrôlés comme les autres. Touchent-ils les aides-PAC? Oui. Donc, c'est forcément très attractif pour eux, parce qu'en plus, quand on regroupe 1700 hectares, on fait des économies d'échelle très importantes. Donc, on écrase les coûts de production. Mais c'est absolument pas ce que nous voulons. C'est le contraire de ce que nous voulons, nous. D'où l'importance de cette loi foncière que nous appelons de nos voeux et sur laquelle nous travaillons déjà pour des propositions.
Mathieu Courgeot.
Ça, c'est un vrai souci. L'accaparement du foncier, il y a de l'accaparement du foncier partout dans le monde, mais aussi en France. On parlait du Brésil tout à l'heure où Monsieur Four donnait l'exemple. Enfin, parlait plutôt pour les grands propriétaires brésiliens de l'agrobusiness et pas beaucoup pour les paysans sans terre. En France, on a aussi ce phénomène-là où, effectivement, dans l'Indre, il y a eu un accaparement foncier par des groupes chinois. À la Confédération paysanne, on s'est quand même pas mal mobilisé sur ces questions-là, puisque il y a 200 paysans qui ont été ressemés une de leurs parcelles pour dénoncer cet état de fait. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un problème juridique. C'est-à-dire qu'il y a des failles dans le système juridique français où il y a un organisme qui s'appelle les SAFER, qui est normalement censé contrôler les transferts des transactions de foncier. Et là, on a une faille. Là, on a une vraie faille parce que des investisseurs comme ceux-là peuvent contourner les règles de la SAFER et, grâce à des montages financiers, peuvent contourner. Et donc ça, c'est un vrai souci qu'on a. Et donc on espère que la loi foncière qui va être travaillée va pouvoir permettre de corriger ces failles.
Mais est-ce que dans ce domaine, Manuel Ruffès, l'Europe peut intervenir?
Alors l'Europe, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il faut renforcer le pouvoir de la SAFER. Parce que ces investisseurs chinois sont passés complètement sous les radars des lois telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Parce qu'ils rachètent des parts de société. Donc ils n'apparaissent pas, il n'y a pas de vrai changement de propriétaire, il n'y a pas de vrai changement de chef d'exploitation, ils rachètent des parts de société et ils sont passés sous tous les radars et ils ont pu acquérir ces terres. C'est là-dessus qu'effectivement il va y avoir des lois et des mesures nouvelles pour lutter contre ça.
Encore des courriels, je vous les lis sur le site de l'émission. Comment peut-on parler de nourriture saine quand on voit les quantités de pesticides, d'herbicides qui sont utilisés? Certains agriculteurs ont empoisonné les rivières, les nappes phréatiques, les sols des humains pour des générations. Est-ce que cela va changer? Est-ce que l'Europe peut intervenir dans ce domaine? Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, que pensez-vous de ce réquisitoire qu'on a reçu sur le site? C'est Xavier qui nous a écrit.
Xavier est très énervé. L'alimentation à la française a été saluée pour la troisième année consécutive comme l'alimentation la plus saine au monde. Donc oui, nous utilisons des produits de traitement pour nos cultures, contre les mauvaises herbes, contre les insectes, contre les maladies. Mais ça ne veut pas dire que les aliments sont empoisonnés. Aujourd'hui, en France, on ne s'empoisonne plus en mangeant. Lorsqu'il y a des actes malveillants, ils sont condamnés et c'est normal. Donc, par contre, la France et les pays d'Europe font le choix de réduire la chimie. Là aussi, il faut que les règles soient les mêmes dans tous les pays. Le comble, c'est que certains produits sont interdits en France, Mais des légumes ou des fruits traités avec des produits interdits chez nous rentrent tous les jours et viennent dans nos cantines, sur nos étals et dans nos marchés.
Mais quand Xavier nous dit que les rivières, les nappes phréatiques, les sols des humains sont fichus pour des générations...
Non, mais ça c'est excessif, ce n'est pas juste d'abord. Il y a une mesure aujourd'hui de la qualité de l'eau, plus fine qu'elle ne l'était auparavant. Plus on cherche, plus on trouve. C'est qu'on trouve aujourd'hui des choses qu'on ne trouvait pas auparavant. C'est vrai. Mais il y a eu, depuis le Grenelle de l'environnement en 2007, des programmes qui ont été mis en place avec ce qu'on appelle des bacs Grenelle, des bassins d'alimentation de captage, où les pratiques sont contrôlées, encadrées, durcies, pour justement avoir cette reconquête de la qualité de l'eau. Et même, en Bretagne, le préfet, l'année dernière, a signalé l'amélioration de la qualité de l'eau en Bretagne. Donc, il faut regarder les chiffres et pas les bruits de couloir.
Mathieu Courgeot.
Je crois qu'on a un gros souci quand même avec les pesticides. On a un gros souci d'abord pour la santé des paysans et des paysannes, parce que ben voilà, c'est nous qui souffrons les premiers de ces dégâts-là. Aujourd'hui, il y a un nombre de cancers qui est en forte augmentation sur certains types de cancers qui sont très très fortement suspectés d'être liés aux pesticides. Donc c'est quand même déjà un problème de santé publique. Et aujourd'hui, ben voilà, il faut faire quelque chose sur ça. Alors nous, faire quoi maintenant? L'horizon qu'on a, c'est de comment est-ce qu'on organise la sortie des pesticides. Nous, c'est ça qu'on revendique à la Confédération Paysanne.
Le gouvernement français aussi, d'ailleurs. C'est pas propre à la Confédération Paysanne.
Mais c'est pas propre à la FNSEA, si j'ai bien compris.
C'est propre au gouvernement qui l'a mis en place et qu'Ophyto 2 est porté.
Quand vous signez des contre-allusions avec l'industrie des pesticides,
et quand
de Mme Lambert,
aussi,
il faut se poser
de
des questions. Quand
pour la protection des plantes, avec 44 organisations, on est au travail. Je crois qu'il ne faut pas être dans l'accusation, mais plutôt dans la recherche de solutions. Et le plus important, c'est ça, c'est la solution, le rythme de changement et l'accompagnement pour les agriculteurs.
Voilà. Mathieu Courgeot, vous poursuivez.
Et là-dessus, je crois que comment est-ce qu'on sort des pesticides, c'est très lié à la question du revenu et des modèles de transition. Aujourd'hui, on l'a dit en introduction, il y a 70% des aides qui sont liées à la surface. Plus on a de surface, plus on a d'aide. Et il n'y a que 30% des aides qui sont liées au développement rural, à la transition de l'agriculture. Ce qu'il faut, c'est inverser ce ratio-là ou augmenter fortement les mesures de la PAC. Donc là, on parle bien de la PAC, de la politique agricole commune, sur la transition. De se dire, eh ben voilà, chaque agriculteur, chaque paysan doit s'engager sur 5 ans, de dire, ben voilà, moi je vais faire ça dans les prochaines années. Et puis, ben, je recevrai un paiement en fonction. Et je crois que ça redonnera aussi du sens à notre métier de paysan, parce qu'aujourd'hui, recevoir des aides à l'hectare, c'est une forme de... Enfin, c'est n'importe quoi. Aucun paysan ne voit de sens à ça. Mais... La priorité des priorités, c'est le revenu. C'est de se dire, ben voilà, il faut du revenu pour faire la transition. Donc il faut lier ces deux choses-là.
Oui, mais le pesticide sera toujours indispensable.
Je pense pas que le pesticide, notre métier, c'est quand même de lutter contre les mauvaises herbes, c'est de lutter contre les maladies animales. Mais il y a d'autres méthodes qui existent. Il y a des PNPP, ce qu'on appelle des préparations naturelles peu préoccupantes. Il y a des huiles essentielles. Moi, sur mon élevage, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles. Donc voilà, on peut améliorer très très fortement les choses.
Christiane Lambert.
Un exemple très concret de ce qu'on fait, de l'accompagnement aussi, par exemple pour l'utilisation des antibiotiques. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de consommateurs sont très sensibles à cette question, et c'est normal, nous avons répondu. Stéphane Le Foll avait lancé un programme qui s'appelait Eco-Antibio. Il fallait réduire de 25% l'usage des médicaments sur les animaux. Savez-vous de combien nous avons réduit ?
Allez-y.
C'est pas arrivé jusqu'à vous. Moins 36%.
Mmh.
Et c'est même moins 42% dans la production porcine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'agriculture française, les agriculteurs sont au travail pour réduire l'usage des pesticides. Et nous avons engagé ce travail-là à l'identique avec les partenaires de la recherche, de la formation, les vétérinaires, tous les conseillers pour réduire aussi le recours à la chimie pour les cultures.
Muriel, en Lozère, elle nous a appelé, elle est au standard. Bonsoir Muriel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, c'est à vous.
Je suis apicultrice et j'écoute avec attention le débat. Donc moi, je trouve que la PAC a certes pu obtenir l'autosuffisance alimentaire, mais c'est avec un corollaire d'industrialisation de l'agriculture, ce qui n'est pas sans causer des dégâts collatéraux, notamment en termes environnementaux. Pour nous, les apiculteurs, il devient de plus en plus difficile de produire du miel. La France ne produit plus que 10 000 tonnes sur les 40 000 tonnes que nous consommons. Donc c'est la santé de nos abeilles qui est affectée par cette industrialisation. Donc ce que nous souhaiterions, nous, en tant qu'apiculteurs, c'est vraiment un changement de paradigme de cette PAC, un changement de modèle réel. Nous appelons de nos voeux l'agriculture paysanne. Et déjà, on pourrait peut-être commencer par plafonner déjà les aides PAC et les répartir beaucoup mieux que c'est...
Muriel, vous parlez d'agriculture paysanne. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais l'agriculture paysanne, c'est l'agriculture qui prend en compte tous les facteurs, que ce soit social, environnemental et économique. Donc ce qui est aujourd'hui, c'est l'économie qui prédomine avec l'objectif d'exporter des marchandises à bas coût. Et c'est pas du tout ça qu'il faut pour l'avenir si on veut préserver la santé de nos abeilles.
Christiane Lambert.
Le sujet des abeilles, il est multifactoriel. On a aujourd'hui diverses études qui montrent qu'il y a à la fois une question sanitaire, notamment le varroa qui attaque, qui est un problème de santé des abeilles, le frelon asiatique qui envahit aussi et qui pose problème, une difficulté d'accès à une nourriture suffisante toute l'année pour les abeilles parce que les cultures ne sont pas forcément celles dont elles ont besoin, et le fait d'avoir importé des cheptels d'abeilles d'ailleurs qui ne sont pas acclimatés en France. Dieu merci, il y a des apiculteurs professionnels qui font leur miel et qui réussissent. C'est vrai, il y en a, mais il y a aussi une sensibilité particulière des abeilles. Donc, faut pas diaboliser. Aujourd'hui, savoir que en mettant en place des jachères mellifères, c'est-à-dire des cultures qui fournissent de la nourriture toute l'année pour les abeilles, ça, c'est déjà résoudre un point important pour les apiculteurs. Ensuite, c'est faire des partenariats entre agriculteurs et apiculteurs pour trouver les lieux où implanter les ruches. Bien sûr, réduire chaque fois que c'est possible les produits phytosanitaires, les utiliser aussi la nuit quand les abeilles ne butinent pas. Oui. On a aujourd'hui des restrictions pour l'usage des pesticides à des moments où les abeilles ne sont pas à l'extérieur et au travail. Donc ça, c'est du très, 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 très concret. Et après, la France, c'est le contraire de l'agriculture industrielle. Allez voir en Amérique du Sud, allez voir en Pologne, allez voir dans les pays d'Ukraine ou de Russie. Oui, là, c'est l'agriculture industrielle. Nous, en France, nous avons une agriculture de type familial. La taille moyenne d'exploitation, elle est aux alentours de 60 hectares. La taille moyenne d'un élevage de vaches laitières, c'est 60 vaches laitières. C'est ça, l'agriculture française. C'est très diversifié.
Mathieu Courgeot, vous partagez ce constat de Christiane Lambert ?
Moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a un vrai souci sur les abeilles. On a un vrai souci sur les abeilles. Il faut faire quelque chose. Sans doute que c'est multifactoriel. Il faut y travailler. Mmh. Je pense que voilà, ça, c'est un vrai sujet.
L'agriculture industrielle, ça n'existe pas chez nous.
Alors l'agriculture, en fait, on a aujourd'hui une PAC qui encourage à l'industrialisation de l'agriculture. Oui. On s'est beaucoup battu sur la ferme des 1000 vaches, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la ferme des 1000 vaches ? C'est une ferme qui était possédée par des capitaux de quelqu'un qui n'était pas agriculteur. Et c'est ça qui nous pose vraiment problème, c'est de se dire, demain, si les agriculteurs ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production, qu'est-ce que ça va donner ? Ça veut dire qu'on va exclure toute une partie des gens de la production. Donc ça, on s'est beaucoup battu pour demander, par exemple, dans le cadre de la PAC, une aide sur les 52 premiers hectares. C'est-à-dire que sur les 52 premiers hectares de chaque ferme, pour chaque paysan, eh bien, il y a une subvention, un bonus de subvention. Et ça, c'est une mesure qui est extrêmement importante parce que ça permet de soutenir l'emploi dans les territoires. Et ça, voilà, la FNSEA et la coordination rurale, nos syndicats concurrents, s'y sont opposés. Et voilà, quand on veut parler d'agriculture familiale, pourquoi être contre cette mesure ? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, dans nos territoires de l'Ouest, par exemple, en Bretagne, en Pays de la Loire, on a un grand, grand besoin de ces mesures-là parce que c'est ça qui encourage l'agriculture familiale, paysanne, dont parlait Muriel tout à l'heure, par exemple.
Manuel Ruffez.
Ce que je voulais juste préciser par rapport à ce que disait cette auditrice, c'est que manifestement, alors avec toutes les incertitudes qui pèsent sur la PAC qui va s'appliquer dans les années qui viennent, on s'achemine quand même vers un plafonnement, je crois, des aides. La réticence. En tous les cas, c'est ce qui avait marqué jusque-là dans le projet, avec toutes les incertitudes encore qui pèsent sur cette PAC, puisqu'évidemment, on va changer les députés européens, on va changer éventuellement de commissaire. Mais en tous les cas, c'était écrit quelque part.
Tous les chiffres pour comprendre la politique agricole commune, c'est notre thème ce soir au téléphone sonne. Cette PAC, ce levier financier qui compte pour 40% dans le budget de l'Union européenne, vous avez tous ces chiffres sur le site franceinter.fr, des graphiques extrêmement précis. Je complète ce que vous disiez, Manuel Ruffez, on a reçu ce courriel. On parle, Mireille, on parle de renationalisation de la PAC, ça veut dire quoi ?
Ça, c'est un vrai danger.
Christiane Lambert.
L'originalité de la PAC, c'est qu'elle est commune. Le C de PAC, c'est commune.
Oui.
28 pays ensemble qui avaient la même politique. Marché unique, politique unique. Et là, M. Hogan dit, vous avez accusé la PAC d'être trop complexe. Eh bien, je vous donne le crayon. Moi, je fixe
qui c'est, M. Hogan ?
Alors, Phil Hogan, c'est le commissaire européen en charge de l'agriculture. Pardon, il est irlandais.
Tout le monde n'est pas spécialiste
non,
comme vous.
Non, je vous en prie. Vous avez raison de m'arrêter. Vous avez raison. Et donc, il a dit, c'est trop complexe. Ok, je fixe un cadre européen et chaque pays va écrire son plan stratégique national. Et le risque, c'est qu'il y ait une juxtaposition de plans stratégiques nationaux très différents les uns des autres, qui ne fixent pas les mêmes règles du jeu. Par exemple, les pays d'Europe centrale et orientale qui sont en plein développement pourraient consacrer 80% des aides du pilier économique à faire de l'économie et seulement 20% aux aides environnementales, et la France faire l'inverse, ou d'autres pays faire l'inverse. Donc nous souhaitons qu'il y ait un minimum de bornage pour qu'on ait tous les mêmes règles. Sinon, ça sera trop distorsif et à ce moment-là, il n'y aura plus de politique agricole commune.
Manuel Ruffez. La peur effectivement qu'il y a derrière, c'est que ça crée à nouveau des distorsions de concurrence intra-communautaires avec des pays qui produisent moins cher et d'autres qui produisent un peu plus cher et du coup, à nouveau distorsion.
Mathieu Courgeot pour la Confédération Paysanne.
Oui, bah effectivement, ça c'est un vrai risque, la renationalisation de la PAC. Après, moi je crois que, enfin aujourd'hui, il y a un mouvement européen quand même pour la PAC. Nous, on fait partie d'une plateforme qui s'appelle la plateforme pour une autre PAC, qui est une plateforme avec des ONG environnementales, des ONG de solidarité internationale, des associations de consommateurs, des associations paysannes, qui rayonnent sur toute l'Europe. Et aujourd'hui, cette plateforme, on a réussi à construire un projet commun, ce qui n'est pas rien. Nous, paysans, de parler avec des ONG environnementales, des fois c'est compliqué, on a du mal à se comprendre, mais on a réussi à aboutir à un projet commun. Et un projet qui tient compte de l'environnement, qui tient compte des pratiques paysannes, qui tient compte des paysans du Sud aussi, qui tient compte des consommateurs. Et ça, on a réussi à faire quelque chose de cohérent. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut réussir à impulser au niveau européen.
Yalika se trouve à La Plagne. Bonsoir Yalika.
Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe.
Vous êtes sur France Inter. Bienvenue.
Oui, merci. Donc ma question ce soir, c'était que voilà, on a dit que les agriculteurs, sans les aides de la PAC, ils ne pourraient pas vivre en fait. S'ils ne bénéficiaient pas de ces aides, ils ne seraient pas en mesure de se verser un revenu, voire auraient même un revenu négatif. Alors ce que je voudrais savoir, en fait, c'est le fait que l'agriculture soit ainsi sous perfusion d'aides, qui du coup ne sont plus des perfusions mais des palliatifs, le fait que les agriculteurs ne puissent pas s'en sortir de façon autonome, est-ce que ce n'est pas un signe d'un certain échec de la PAC ?
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.
Le choix a été fait en Europe d'avoir une politique agricole qui soutienne les agriculteurs pour que les Français et que les consommateurs puissent manger pas cher, alimentation accessible. Et ça, c'est, je crois, en plus, en France, on a un système de distribution alimentaire qui s'est beaucoup concentré dans les mains de 4 opérateurs. Et ça a conduit, effectivement, à tirer les prix vers le bas, tout comme a contribué à tirer les prix vers le bas l'ouverture des frontières et les importations tous azimuts. Aujourd'hui, vous trouvez des fruits et légumes qui viennent d'Amérique du Sud. Vous trouvez du vin espagnol, voire encore plus exotique et moins cher. On peut tout trouver moins cher qu'en Europe. Parce qu'en Europe, nous avons privilégié aussi, c'est pour ça que nos coûts de production sont plus élevés, une sécurité sanitaire irréprochable. On n'a pas les mêmes scandales que JBS au Brésil. On n'a pas les mêmes scandales ou les mêmes problèmes que la peste porcine africaine que l'on voit en ce moment en Chine. Et ça, c'est un niveau haut de gamme de l'agriculture. Alors, il faut continuer à tirer vers le haut l'agriculture française, faire ce qu'on appelle jouer les avantages comparatifs, faire ce que les autres ne savent pas faire, mais malgré tout, sur certains marchés, on a besoin d'être en égalité de concurrence avec les autres pays européens.
Vous évoquez ces produits qui viennent de l'extérieur. Manuel Ruffez, un courriel. Où en est le Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains? On en parlait avec Jean-Marc Four. Cet auditeur nous dit que la Commission européenne s'efforce de le relancer, ce Mercosur.
Alors absolument, c'est en rediscussion en ce moment. Ce que je voulais moi préciser par rapport à cette agriculture française censée être sous perfusion, à ma connaissance, il n'y a quasiment pas un pays qui n'aide pas son agriculture. Les États-Unis, des aides directes, mais aussi des droits de douane, la Chine, l'Inde, évidemment l'Amérique du Sud. Il y a peut-être, on parle de l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui a laissé l'affaire passer, mais tous les pays.
Oui, c'est très important de le rappeler. Les États-Unis, quand on fait le comparatif, versent 2,5 fois plus d'aides à leur agriculture que l'Europe. 2,5 fois plus. En plus, ils donnent ce qu'on appelle des food stamps, des timbres alimentaires. Oui. Les producteurs agricoles produisent et c'est l'État qui achète l'alimentation pour la donner aux personnes défavorisées. Donc,
Je reviens à ce mail. Où en est le Mercosur? Est-ce que ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains, ça vous angoisse?
Ça nous angoisse beaucoup. Nous faisons tout pour le stopper. Mmh. Et nous avons fermement manifesté à plusieurs reprises depuis plus de 2 ans pour dire stop au Mercosur. Ce sont des conditions de production totalement différentes. Ça ne serait pas normal que cette viande-là arrive dans notre assiette. Et il ne faut pas qu'on vienne nous dire ça sera des voitures contre des bovins, des avions ou des appareils médicaux contre des bovins. Nous voulons nous défendre l'alimentation européenne haut de gamme. Et pour l'instant, le ministre de l'Agriculture tient, le président de la République tient. Je souhaite que la commissaire en charge du commerce, Madame Malmström, ne cède pas avant la fin de son mandat.
Mathieu Courgeot.
Alors, on a un vrai souci sur les accords de libre-échange, ça c'est vrai. Aujourd'hui, l'Union européenne, depuis la fin du multilatéralisme, depuis la fin de l'Organisation mondiale de commerce, on signe des accords de libre-échange bilatéraux de pays à pays ou de zone économique à zone économique à tour de bras. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai souci pour les agriculteurs, pour les paysans européens. La Commission européenne nous dit, mais écoutez, on va signer des accords de libre-échange, ne vous inquiétez pas, ça va accroître l'économie, etc. Ce qu'on constate, c'est que ça engraisse les multinationales et que ça appauvrit les paysans. C'est ça aujourd'hui qu'on constate. Donc nous, ce qu'on demande, Emmanuel Macron s'est engagé pour arrêter les négociations avec le TAFTA, donc avec les États-Unis. Je demande à voir. Nous, on demande à voir. Est-ce que après les élections européennes, ça va être passé? Une fois que les élections européennes seront passées, est-ce que ça va vraiment être le cas? Aujourd'hui, on est sur des normes qui sont complètement différentes. Aux États-Unis, ils engraissent. Il y a 70% des bovins qui sont engraissés dans des unités de plus de 25 000 animaux. Je veux dire, quel rapport ça peut avoir avec notre agriculture? Comment ça va détruire, ça va démolir complètement l'agriculture qu'on peut avoir en France? Donc aujourd'hui, il y a une urgence à arrêter à ce que l'agriculture soit la monnaie d'échange des échanges commerciaux européens.
Michel, dans le Nord, il patiente depuis un bon quart d'heure. Pardon Michel, mais il y a beaucoup d'appels. C'est à vous.
Merci, bonjour. Alors moi, je suis professeur en agroéquipement. En même temps, je suis employé agricole sur la ferme familiale. J'avais une remarque et en même temps une question. Est-ce qu'on trouve normal aujourd'hui que l'on doive payer pour être aidé pour obtenir des aides? Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre le dossier PAC que j'ai réalisé avec mon père il n'y a pas très longtemps. Il a fallu qu'on aille à notre centre de gestion pour pouvoir se faire aider, pour comprendre le système, pour remplir les aides PAC, parce que sinon, nous, on n'y arrive pas. Enfin, même moi, qui a un niveau d'études quand même assez élevé, parfois, c'est compliqué pour moi. Et je prends un deuxième exemple, c'est le fonds FEDER, où le fonds FEDER, aujourd'hui, on a demandé à la Chambre d'agriculture de nous aider, il a fallu payer aussi pour ça. Alors, d'un côté, heureusement qu'ils sont là pour nous aider, le service payant, je le comprends bien, parce qu'ils passent un temps à nous aider, mais le problème, c'est qu'on est obligé à chaque fois de payer pour obtenir des aides, et donc c'est ce qu'on perd en fait comme argent, comme aide. Quoi.
Michel, vous parlez du fonds FEDER, expliquez-nous de quoi il s'agit exactement.
C'est un fonds, alors nous, si je prends notre exemple, qui va nous permettre de développer l'exploitation à la fois d'un point de vue environnemental et à la fois sur un point de vue économique. On est en train de relancer l'exploitation d'agriculture biologique, de moderniser l'exploitation, ouais. Et cette aide va nous permettre de moderniser l'exploitation sur des aménagements, sur du matériel qu'on pourrait pas se payer si on n'avait pas ces aides-là.
Christiane Lambert, ce témoignage de Michel.
Sur la complexité, on l'a tous dénoncé. Oui. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se font aider pour faire leur déclaration annuelle PAC, justement pour éviter de faire une erreur et d'être pénalisé. Je gère en ce moment un dossier d'un agriculteur qui a oublié de signer. Juste oublié de signer, et il ne va pas percevoir ses soutiens. C'est assez invraisemblable, mais c'est ce que nous vivons. Alors, après, certains agriculteurs le font seuls, d'autres se font aider, c'est au choix, mais c'est vrai que la complexité fait que beaucoup veulent se sécuriser, et quand on fait une prestation, eh bien, moi je peux vous dire quand même que dans ma FDSEA, le conseil, jusqu'à maintenant, il était gratuit. Donc, ils viennent dans sa FDSEA, il aura un conseil gratuit. Et puis, sur le fonds FEDER, ça dépend de la lourdeur du dossier. Quand on fait un dossier FEDER pour faire une conversion ou pour faire une modernisation importante, là aussi, il y a un montage de dossiers, il y a une sécurisation. Pour avoir fait des dossiers sur du deuxième pilier, je peux témoigner que c'est extrêmement compliqué, puis que c'est 2 jours de travail administratif pour monter la totalité du dossier, rassembler les éléments, recopier sans erreur. Après, qu'est-ce qui est important? À quoi servent ces fonds? Si ces fonds servent à soutenir des exploitations et à porter des projets de développement, ça vaut le coup de dépenser 100 euros pour en avoir 1000 ou 10 000. Tout doit être connecté à la nature de la dépense petite pour pouvoir percevoir ce soutien qui va, s'il passe en bio, lui permettre de toucher des montants d'aide très importants. 300 euros par hectare pour passer en agriculture biologique en grande culture, c'est pas neutre. S'il a 100 hectares, faites le compte.
La complexité de ces papiers, on l'entendait dans votre reportage, Manuel Ruffel, avec ce céréalier dans le Morbihan.
Beaucoup d'agriculteurs se font aider, font appel à des boîtes sous-traitantes, et ce qui grève d'autant plus leur revenu au final.
Et est-ce que les choses peuvent changer éventuellement?
Alors, une des propositions
au niveau
changer,
européen, que ce soit plus facile, plus simple.
Il y a une proposition de simplification qui est assez intéressante et que nous expertisons. Plutôt que d'avoir des contrôles à répétition dans les exploitations, notamment pour les sujets de conditionnalité des aides, les 21 directives et règlements que nous devons respecter, eh bien, les agriculteurs pourraient faire certifier leurs pratiques et à ce moment-là, ils seraient exonérés du contrôle. Ils font le choix de certifier leur pratique, de tout tracer, tout enregistrer et faire certifier par un organisme certificateur externe. D'autres pays le font. Et à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'être contrôlés par la puissance publique.
Mathieu Courgeot.
Privatisation des contrôles. Ce que je voulais dire, c'est que les agriculteurs, ils sont souvent entre le marteau et l'enclume. Moi, cette année, sur la déclaration PAC, jusqu'à présent, je la fais tout seul, avec beaucoup de, en croisant les doigts, en espérant ne pas faire d'erreur, parce que, effectivement, les conséquences financières, elles sont énormes sur une exploitation. La moindre erreur, elle est sanctionnée de façon très importante. Et donc, par contre, quand on le confie à un organisme de gestion, eux ne prennent pas de responsabilité. Donc, à la fin, s'il y a un souci, c'est quand même l'agriculteur qui est responsable. Donc là, on est vraiment quand même sur une organisation où c'est l'agriculteur qui, au bout du compte, porte toute la responsabilité tout le temps. Et l'administration se dédouane complètement. Un autre exemple qui est l'exemple de l'agriculture biologique, où on est rendu à 3 ans de retard sur les paiements. Est-ce que c'est acceptable, ça, d'avoir 3 ans de retard sur les paiements sur une production qu'on souhaite encourager? Donc les subventions sont arrivées de 2016. Comment juste arriver sur les exploitations agricoles aujourd'hui? Et ça, on se dit, mais si vraiment la priorité des priorités, c'est le développement de l'agriculture biologique, comment c'est possible? Alors c'est un problème de logiciel, paraît-il. Non,
normalement, le ministère s'est engagé à tout régler. Alors, les comment... 2017, à partir au 15 mai...
C'est tout ça. À fait, non, ouais, mais le calendrier s'avance, mais comment est-ce que c'est possible que dans la 5e puissance mondiale, on ait un problème de logiciel qui nous fasse des retards de 2 ans, 3 ans, 4 ans?
Ces sommes sont indispensables.
Alors que ces sommes sont indispensables dans bien des cas. Dans bien des cas, elles sont complètement indispensables.
Nathalie en Charente-Maritime. Bonsoir, Nathalie.
Bonsoir.
Vous êtes en direct et on vous écoute avec nos invités Christiane Lambert, Mathieu Courgeot et Emmanuel Ruffez.
Oui. Alors, je fais partie d'une petite production, la spiruline, c'est pas très connu, mais donc avant que le règlement bio devienne européen, les producteurs dans n'importe quelle production pouvaient participer à l'écriture d'un cahier des charges bio. Nous, on avait commencé au niveau franco-français, mais en 2017, on nous a casés en algues marines, alors que nous, on n'est ni une algue ni marine. Et du coup, on se retrouve avec un cahier des charges imposé. J'insiste sur le « on » parce qu'on n'a pas d'interlocuteur direct. On a un manque de concertation avec l'Europe. Pourtant, on a une fédération de producteurs, on a une adresse, un téléphone, on peut nous joindre. Et c'est vraiment, pour nous, un manque de concertation. Donc, que fait l'institution européenne au niveau de ce cahier des charges bio pour prendre en considération nos demandes et nos volontés de travailler en concertation?
Nathalie, pour bien comprendre, vous dites que vous êtes productrice de spiruline, c'est ça?
Oui.
Expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que tout le monde ne connaît pas. Vous dites que ce ne sont pas des algues.
Non, c'est une cyanobactérie. Donc effectivement, en participant à la normalisation européenne, on a bien effectivement validé le fait que c'est pas classé.
Oui.
C'est classé dans les algues, on va dire, techniquement, administrativement parlant, mais ça n'en est pas une. Donc nous, on demande véritablement à avoir un cahier des charges bio spécifique à notre production, cahier des charges qu'on avait commencé à rédiger avec l'aide du ministère de l'Agriculture français, l'INAO. Un bon travail, bien engagé, mais on nous a coupé l'herbe sous le pied.
Merci Nathalie. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, semble très bien connaître ce dossier de la spiruline.
Oui, parce que nous avons des producteurs et qui rencontrent exactement les mêmes problèmes qu'évoque Nathalie à l'instant. Nathalie, si vous aviez vu la tête de Pierre Veil quand vous étiez en train d'expliquer, c'était un vrai spectacle. Je pense qu'il a découvert la complexité de certaines productions agricoles. Ces cahiers des charges s'écrivent essentiellement avec l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui supervise bien sûr l'agriculture biologique, qui est un signe officiel de qualité. Et c'est donc auprès de cet institut qu'il faut travailler. Mais oui, c'est vrai que le fait qu'il y ait une définition unique européenne de tous les produits, dont la spiruline, fait que ça a enlevé une partie de la discussion au plan français. Toutefois, nous avons, nous, des relations avec le président et la directrice de l'INAO et je me charge dès demain matin de me renseigner davantage. Et si Nathalie veut bien m'écrire un courrier perso à la FNSEA, eh bien, elle aura une réponse écrite et précise de l'INAO et de ma part.
Non, mais il y a déjà un cahier des charges bio rédigé au niveau français, voilà. Mais qui n'a pas pu être validé puisque on est arrivé trop tard. Au 1er janvier 2017, il était caduc.
Il faut le ressortir des cartons et il faut voir quelle vie on peut lui donner désormais. Parce que je pense en plus que la France, est plutôt bon élève en la matière vis-à-vis des autres pays européens. Donc ça serait tout à fait sécurisant de pouvoir faire les choses correctement.
Un courriel, le glyphosate sera-t-il éliminé en 3 ans et que dit l'Union européenne sur ce sujet? Christiane Lambert.
L'Union européenne a voté un renouvellement pour 5 ans. La France a dit nous allons en sortir sous 3 ans. Et le président de la République a dit récemment nous maintenons le cap de 3 ans, mais il y aura des dérogations pour les cas où il n'y a pas de solution. Donc le pragmatisme l'emporte, comme par exemple pour l'agriculture de conservation des sols où le glyphosate est nécessaire, ou pour la production de semences ou pour d'autres cultures. Donc la recherche d'alternatives le plus souvent possible, et lorsqu'il y a une impasse, garder un possible recours au glyphosate. C'est un choix français. D'autres pays restent sur un usage du glyphosate.
Mathieu Courgeot, sur ce dossier du glyphosate, pas mal de courriels.
Oui, j'imagine bien. Oui, c'est un gros sujet, le glyphosate. Je crois qu'aujourd'hui, sur le glyphosate, il faut l'interdire. Il faut l'interdire le plus rapidement possible et il y a sans doute quelques cas qui posent des problèmes et éventuellement faire des dérogations. Mais sur ce pesticide, sur le glyphosate, qu'on retrouve, qui encore une fois, c'est un vrai danger pour la santé des utilisateurs, donc des paysannes et des paysans, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur le nombre de cancers, sur la fertilité, sur plein de choses, sur la pollution de l'eau, c'est un vrai souci. Et donc, il faut sortir du glyphosate le plus rapidement possible, avec quelques exemptions si vraiment on peut pas faire autrement sur quelques productions. Mais voilà, Emmanuel Macron a reculé là-dessus, et je pense que c'est pas entendable dans la plupart pour nos concitoyens. Et ça, c'est dommage.
Michel, bonsoir Michel.
Bonsoir France Inter. Je suis un peu surpris de comprendre ma question.
Mais pas du tout. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne. Ça nous intéresse de vous entendre.
Voilà, donc je suis président d'une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Dans ma CUMA, il y a un peu de tout. Il y a des bio, il y a des conventionnels, il y a des petits, il y a des gros. Et on est tous solidaires les uns avec les autres. On n'a pas besoin qu'on nous fasse la morale sur le fait qu'il y aurait des gros paysans et des petits paysans. Moi, ça m'énerve un petit peu d'entendre toujours ce discours-là. Les coûts, ils sont faits en fonction de la surface travaillée, de la surface récoltée et les déplacements, ils sont communs et donc ça permet aux petits comme aux gros de s'y retrouver. Voilà. Pour ce qui est de la solidarité encore, je dirais qu'il y a une taxe sur les produits phyto qui a été mise sur les conventionnels cette année, qui devrait rapporter environ 165 millions d'euros à la France pour aider l'agriculture biologique. Donc c'est bien les agricultures conventionnelles qui vont aider l'agriculture biologique par les taxes qu'on leur met. Et pour ce qui est des subventions qu'on verse aux agriculteurs, moi je me pose la question si on ne devrait pas mettre la subvention aux produits vendus, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui en bénéficie s'il achète un produit qui répond aux normes européennes, qui répond à certaines normes écologiques, enfin qui répond à ce qu'on veut faire de notre société. Voilà.
Mathieu Courgeot.
Sur l'opposition petit paysan, gros paysan, ce qu'il faut dire, c'est quand même que aujourd'hui, la PAC, elle a financé un vaste plan social européen. Enfin, là, il faut quand même être clair là-dessus. Depuis 10 ans, c'est un tiers des fermes européennes qui ont mis la clé sous la porte. Il faut l'avoir en tête, ce chiffre. C'est un tiers des fermes européennes qui ont mis les clés sous la porte depuis 10 ans. Ça, c'est quand même un vrai souci. Alors, effectivement, quand les fermes s'agrandissent, ça veut dire qu'il y a moins d'installations, ça veut dire qu'il y a moins de paysans qui s'installent. C'est mathématique.
Et ça, c'est la faute de la politique agricole commune.
Complètement. C'est complètement de la politique politique agricole commune. Quand on refuse, on parlait du plafonnement des aides tout à l'heure. Le projet aujourd'hui pour le plafonnement des aides, c'est 100 000 euros par actif. Je veux dire, en France, il y a quasiment personne qui touche ça. Ça va être complètement inopérant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de se dire, il faut un plafonnement. On proposait, nous, à 45 000 euros par actif. Ce qui est déjà un niveau, on pense, cohérent.
Quand la moyenne est à 33 000.
Voilà, donc la question, c'est de comment est-ce que la PAC soutient l'emploi. On parle européen, on parle Europe. Aujourd'hui, la Roumanie, c'est le plus gros taux de migration derrière la Syrie. Et ça, c'est aussi une des conséquences de la PAC. C'est-à-dire que c'est des Roumains qui partent travailler dans les fermes en Allemagne, beaucoup en Pologne. Et voilà, c'est aussi une des conséquences. Aujourd'hui, l'argent public de la PAC finance un plan social aussi, sur un modèle qui fonctionne.
Alors, on voit bien qu'on a...
Alors, Christiane Lambert n'est pas d'accord.
Attention au slogan. C'est vrai que c'est sympa. Ça vous fait plaisir de dire que c'est un grand plan social. La PAC a permis de maintenir beaucoup d'agriculteurs et d'agriculture en France et en Europe. C'est une vraie chance. Sinon, nous aurions l'agriculture de l'Amérique du Sud ou de la Russie ou d'ailleurs. L'agriculture française et européenne a bénéficié de la PAC. La France est le pays qui utilise le plus des aides pour les jeunes agriculteurs. J'ai été présidente du Centre national des jeunes agriculteurs. La France est le pays qui, encore aujourd'hui, soutient le plus ces jeunes agriculteurs. Et oui, c'est vrai qu'on l'entend dans la bouche de Mathieu
Courgeot,
à l'instant, c'est toujours l'opposition entre les gros et les petits. Oui. Mais de grâce, moi j'ai des adhérents qui ont des grandes exploitations et j'ai des adhérents qui ont des petites exploitations. Et il y a place pour tout le monde dans ce pays. Et il faut arrêter d'opposer les gros, les petits, les grands, les maigres, les intensifs, les extensifs. La France a cette diversité. On n'a pas la même agriculture quand on est en Savoie ou quand on est dans le Finistère, quand on est en Alsace ou quand on est dans le bassin parisien. Il y a place pour toutes les agricultures et nous les défendons toutes. Et puis quand cette personne dit dans ma CUMA, c'est-à-dire dans mon coopérative d'utilisation du matériel agricole, j'ai des grands, des moyens et des petits et on joue la solidarité, eh bien merci, retenons cela, c'est aussi ça la France. Et aussi la solidarité, parce que je corrige le chiffre qu'il a donné. La solidarité, c'est 165 millions d'euros. La redevance pollution diffuse qui va être prélevée, 50 millions d'euros de plus. On en payait déjà 144, ça fait 194. Oui, c'est vrai que c'est ce qui va payer l'agriculture biologique. Donc, disons-le, cette solidarité, elle est intrinsèque à l'agriculture française. Et moi, je n'aime pas quand on abîme et l'agriculture française et la PAC avec des slogans et des propos excessifs. Bon, Adrien, c'est pas sérieux et c'est pas fidèle à la réalité.
Bientôt la fin de l'émission, le temps a passé très vite. Adrien souhaite intervenir. Bonsoir Adrien, oui. Vous êtes à Soumans. C'est ça?
Assoumant, tout à fait, en Creuse.
En Creuse.
Un petit département.
Bien vu, allez-y.
Et donc ma question, en fait, c'est de savoir un petit peu pourquoi évidemment, je vais m'en mêler. Pourquoi on propose pas à des jeunes qui ont envie de changer de vie, il en existe beaucoup dans nos villes, qui se préoccupent du changement climatique et des grandes difficultés qu'on va avoir dans les décennies à venir, tous ensemble. Pourquoi on leur propose pas de venir s'installer dans des petites fermes paysannes, autour des villes, autour des villages, dans des exploitations vivrières qui permettraient justement de subvenir aux besoins de la population en nourriture et puis d'avoir des exploitations, même si j'aime pas beaucoup le terme, à taille humaine et qui ne nécessitent pas d'usage d'engins agricoles outre mesure, mais plus de main d'œuvre et du coup de faire de l'emploi.
Mais Adrien, comme on parle ce soir de l'Europe, de l'élection européenne à venir le 26 mai, vous souhaiteriez que l'Europe finance ce genre d'installation ?
Mais l'Europe a tout à fait les moyens de financer ce genre d'installation, à mon avis, et elle le fait certainement à petite échelle, mais c'est-à-dire que là, les enjeux environnementaux et climatiques nécessitent de mettre des moyens pour que ça soit à grande échelle. Quand on voit des projets comme portés par Pierre Larouturou, comme 1000 milliards pour le climat, etc., on a envie de voir des choses comme ça, effectivement, arriver sur le devant de la scène et des vraies propositions avec des milliers d'hectares mis à disposition.
Merci Adrien, je vous interromps parce que malheureusement il est 19h59 et je voudrais que nos invités réagissent à ce que vous venez de proposer, Mathieu Courgeot. Pardonnez-moi Adrien.
Effectivement, mais je crois que là on est en période d'élection européenne, je crois que moi je voudrais vraiment lancer un appel, on est profondément européen à la conf, moi je le suis aussi. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est réenchanter l'Europe. Voilà, l'Europe de Madame Lambert, c'est l'Europe de marché. Et franchement, ça me fait pas rêver. Franchement, ça me fait pas rêver. Moi, ça me fait pas rêver. Je crois que voilà, dans les propositions, la proposition d'un.
Jusque là, il avait été sympathique, mais voilà.
Juste à la fin.
Non, mais juste pour dire quand même que je crois que la PAC, ça peut être un super projet pour l'Europe. Ça peut être un super projet parce que voilà, nourrir sainement notre population avec des paysans nombreux, un environnement préservé, des territoires vivants.
Très bien, Mathieu.
Voilà, c'est un beau projet pour l'Europe. C'est vers ça qu'il faut aller.
Réenchanter l'Europe, Christiane Lambert.
Il y a place pour toutes les agricultures dans notre pays, c'est une vraie chance. Et nous sommes pro-européens. Le 14 mai, nous convions tous les têtes de liste à venir débattre des questions agricoles proprement dites devant un parterre de responsables agricoles. Et croyez-moi, j'ai pas la réputation d'être pour l'Europe des marchés. Nous voulons plus et mieux d'Europe, mais nous croyons en l'Europe. Et pas la caricature qu'en est faite parfois.
Voilà, merci beaucoup. On a déjà ouvert ce dossier ce soir avant ce rendez-vous que vous organisez avec les têtes de liste pour l'élection européenne. Merci à nos invités, Christiane Lambert, Mathieu Courgeot et Manuel.
Manuel Ruffez. C'était Le Téléphone Sonne. À demain soir, 18h40. On ouvrira un autre dossier important avant ce scrutin du 26 mai, les migrants. Vous écoutez France Inter, il est 20h40.